Réplique Mauriac parmi nous avec Étienne de Montetti et Xavier Patier. À la date du 6 janvier 1968, François Mauriac écrivait « À force de ne pas mourir, le romancier que je suis a été peu à peu recouvert par le journaliste, que certes je ne renie pas. Il est fort possible que le bloc-notes ou les mémoires intérieures seront consultés à une époque où nul ne songera plus à ouvrir mes romans. » Cette prédiction, qui ne réjouissait pas particulièrement l'auteur de Thérèse Desqueyroux et du désert de l'amour, semble se vérifier aujourd'hui. Le bloc-notes que François Mauriac a tenu entre 1952 et 1970, à la Table Ronde d'abord, puis à l'Express et enfin au Figaro littéraire, reparaît dans la collection Bouquins. Ce sont deux forts volumes de 1300 pages chacun. Il y a là un paradoxe que je voudrais élucider avec Xavier Patier, qui publie « Demain la France, tombeau de Mauriac, Michelet, De Gaulle » et avec Étienne de Montetti, qui dirige le Figaro littéraire. L'actualité politique et culturelle dont traite le journaliste Mauriac n'est depuis longtemps plus la nôtre. La plupart des protagonistes sont tombés dans l'oubli. La Quatrième République et le pouvoir gaullien appartiennent à une époque révolue. D'autres péripéties, d'autres drames, d'autres personnalités requièrent notre attention, nourrissent notre inquiétude, suscitent nos éloges ou nos critiques. Un événement chasse l'autre, dit-on. Mais si c'est vrai, que fait donc le bloc-notes parmi nous ? D'où vient qu'on lise encore ce recueil au titre si plat ? Et j'en ai fait l'expérience, qu'on le lise même avec passion. Étienne de Montetti.
Parce que se plonger dans ce bloc-notes, c'est faire une cure d'altitude mentale, comme disait Proust, d'un autre journal que l'Express ou le Figaro. D'abord parce que Mauriac reste un écrivain, même pour parler de l'actualité la plus prosaïque, c'est-à-dire ce style qui est le sien, qui est nourri par la lecture peut-être quotidienne de Bossuet, de Pascal, de Racine, tout ça appliqué effectivement aux vicissitudes de la Quatrième République. Et comme Mauriac est un écrivain, ce journalisme est quand même un journalisme de qualité qui n'est pas dans le commentaire fastidieux ou plat. Il y a des magnifiques portraits, des phrases concernant le général de Gaulle ou concernant des écrivains qui surgissent quand il s'agit de parler de Sagan ou de Solers. Ça éveille quand même des choses dans notre culture contemporaine. Et comme c'est écrit magnifiquement, c'est un journal plein de vie et qui reste passionnant de bout en bout, notamment quand on s'intéresse quand même un tout petit peu à l'histoire contemporaine, parce que la lecture des événements d'hier nous éclaire un tout petit peu sur aujourd'hui. Donc bien sûr que certains seconds couteaux de la Quatrième sont oubliés, mais dans une très très large partie, on est passionné par la vitalité avec laquelle Mauriac analyse son époque. J'ajoute qu'il y a un esprit merveilleux, qu'il y a des coups de patte, qu'il y a des partis pris. Il n'est jamais neutre, il n'est jamais fade. Et que cette vitalité, elle transporte le lecteur, même si tout le monde ne comprend pas les tenants et les aboutissants des problèmes exprimés par Mauriac dans sa prose.
Et puis, peut-être, je le dis en écho à ce que vous venez de dire, Étienne de Montetti, peut-être cette actualité suscite-t-elle aussi notre nostalgie du fait même de tout ce qui nous sépare d'elle. Vous avez parlé de Gaulle. Ça m'évoque un passage, en février 1961, un passage du bloc-notes qui mesure la distance entre Mauriac 61 et nous. D'ailleurs, en France, les intellectuels ne sont-ils pas au pouvoir ? Charles de Gaulle est homme de lettres comme chacun de nous. soucieux de son style, attentif aux virgules, furieux des coquilles. Il a fait un ministre d'André Malraux, un directeur des lettres de Gaëtan Picon. La plupart de ses ministres et de ses fidèles ont plus de vraie culture que tel ou tel d'entre vous. Le pouvoir en France n'a jamais été pénétré comme il est aujourd'hui de cette vérité que les écrivains et les artistes dans tous les ordres ont été et demeurent notre honneur et notre gloire. C'est-à-dire, avec De Gaulle, la France est, en majesté, selon Mauriac, une patrie littéraire. Donc voilà. Et on ne peut pas dire que ce soit le cas aujourd'hui. Donc il est vrai que cette lecture est d'autant plus intéressante qu'elle sert le cœur. Xavier Patier.
Alors c'est vrai qu'il y a cette nostalgie d'une époque où non seulement les intellectuels étaient au pouvoir, parce qu'ils existaient d'abord, mais aussi parce que le romantisme était au pouvoir. François Mauriac, c'est le romantisme au pouvoir aussi. On relit le bloc-notes parce que c'est l'histoire du gaullisme. Et puis on relit le bloc-notes aussi parce qu'il y a quand même l'extraordinaire coup de patte, comme disait Étienne de Montetti. Il y a cette espèce de griserie de l'extermination qu'on trouve chez Mauriac quand il explose ses adversaires d'une phrase. Et en fait, on va dans le bloc-notes comme on va chercher des truffes. On n'en trouve pas toujours, mais on en trouve souvent, très souvent. Et en fait, chaque bloc-notes, généralement, il y a la phrase géniale qui fait que on pense évidemment à Blaise Pascal, qui manquait gravement à la vertu de charité, mais qui avait tellement de talent.
Oui, mais ce qui rend aussi l'ironie de Mauriac acceptable, c'est que il ne s'épargne pas non plus. Et j'ai noté, en lisant ce que je pouvais de ce bloc-notes, parce que je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai fait une lecture intégrale, j'ai noté les phrases sur l'Académie française. Elles m'ont beaucoup amusé, et par exemple celle-ci. « Qu'est contigne, nous sommes déjà à demi pétrifiés. Chacun se sent devenir sa propre statue. Oui, un peuple de statues, mais qui n'a ni sentiment, ni langage commun. » Et puis, ah oui, ça c'est très intéressant. Il s'agit des successions. Hein. Les fauteuils se vident, parce que les immortels sont très très fragiles. Et je crains que nous nous retrouvions à l'Académie avec plus de fauteuils que de candidats. L'Académie n'est pas accoutumée à appâter le gibier qui, depuis qu'il existe, est toujours venu lui-même, de lui-même, lui manger dans la main. Que les temps sont changés. En vain alignons-nous les noms, pour en revenir toujours à Malraux, qui est ministre, et qu'il est sous un prince ennemi des crises mystérielles, donc irrécupérable. Quant au superbe Monterland, dispensé de visite, il en est à refuser d'écrire sa lettre de candidature. Faudra-t-il aller le chercher en carrosse, monter son escalier à genoux? Reste Camus, du haut de son prix Nobel, que la coupole doit lui paraître petite, l'escabeau de ses pieds, etc. Il dit, il faut peut-être renoncer aux écrivains, devenons très officiellement l'illustre retraite des personnages qui ont bien servi l'État et qui souhaitent, quand ils dînent en ville, d'être jusqu'à la mort assis à droite de la maîtresse de maison. Et encore cette dernière citation, en 1961, à l'Académie, chacun garde pour soi ce qu'il pense de tous. La restriction mentale est le fondement de la courtoisie, vertu si nécessaire, mais d'une pratique difficile, partout où la vieillesse domine et règne, sujette, comme on sait, aux aigreurs. Voilà, il attaque l'Académie, mais en attaquant l'Académie, il s'attaque un peu lui-même. Étienne Montetti.
Oui, et ça montre que Mauriac acceptait d'être inactuel dans son bloc-notes, parce qu'il est probable que ces questions d'Académie française n'étaient pas au cœur de l'actualité à l'époque où Mauriac en parlait, à peu près comme aujourd'hui. Et il acceptait ce décalage, ce pas de côté avec une actualité brûlante, peut-être une polémique du moment. Et ça aussi, c'est une grande qualité de Mauriac, qui est aujourd'hui, malheureusement, aurait fait de lui un marginal, c'est d'accepter de parler de sujets qui lui tenaient à cœur. Il lui arrivait dans le bloc-notes de parler de ses lectures, et parfois de lectures classiques, de parler longuement de Port-Royal, pour simplement suivre sa propre trace, éclairer ce qu'il estimait être important dans sa vie ou dans ses lectures. Et c'est la qualité de ce bloc-notes, de ne pas être simplement non plus l'éphéméride d'une actualité politique assez périssable. Il y a des pages magnifiques dans Mauriac qui étaient déjà hors du temps à l'époque où il les écrivait et qui aujourd'hui relèvent de la prose la plus classique.
C'est vrai, et Mauriac ne se contente pas de commenter l'actualité, il parle de ses lectures et il parle aussi, là encore, la nostalgie peut se déployer, il parle aussi de ce qu'il voit à la télévision.
Oui.
Et il voit des émissions, des retransmissions extrêmement intéressantes. Il voit une adaptation de son roman Destin. Il voit une adaptation d'un roman de Roger Nimier. Ça lui évoque la silhouette de Roger Nimier, donc il parle de Roger Nimier avec beaucoup de tristesse et d'affection, et d'émotion, oui, comme vous dites. Mais je voudrais quand même en venir, justement, à l'engagement de Mauriac. Parce qu'à plusieurs reprises, il cite un vers de Keats. « L'âme est en elle-même un monde et a suffisamment à faire chez elle ». Mais, d'un autre côté, il dit « Oui, mais trop tard, je suis engagé, au sens matériel du terme, comme un soldat qui a signé son engagement. Que la passion politique m'entraîne ou m'égare, il n'en reste pas moins que je suis engagé dans ces problèmes d'en bas pour des raisons d'en haut. » Alors diriez-vous que c'est la bonne définition du journaliste Mauriac, engagé dans les problèmes d'en bas pour des raisons qui sont d'en haut, Xavier Patier?
Il l'a dit très explicitement, pas seulement dans son bloc-notes, mais je crois dans ses nouveaux mémoires intérieurs. C'est quand il prenait du recul avec ses préoccupations d'en haut, quand il commençait à douter dans le domaine de la foi, qu'il se désintéressait de la vie publique et politique. Et réciproquement, c'est précisément quand il était dans l'expérience de foi qu'il s'intéressait dans la charte politique. Parce que le poème de Keats qu'il cite, il dit autre chose. Il dit à un moment, et je crois que c'est au tout début des nouveaux mémoires intérieurs, donc il a à peu près l'âge qu'il avait quand il parlait de l'Académie, il dit « Aujourd'hui, vivre suffit à m'occuper ». Et en même temps, ce même personnage qui dit « Vivre suffit à occuper », il rend compte de ce qu'il voit à la télé, il s'indigne de ce qu'il lit dans le journal, il ne s'est jamais débranché. Et il dit, quelques semaines avant de mourir, « J'ai l'impression de devoir refermer le livre alors que je suis dans un chapitre parmi les plus passionnants ». Autrement dit, c'est quand même un journaliste en ce sens que, même quand il est très inactuel, il est toujours parfaitement au courant de ce qu'il faut dénoncer dans l'immédiateté.
Alors justement, quand même, une question, comment différencier l'engagement de Mauriac? Il utilise les termes de l'engagement sartrien, parce que c'est Sartre qui a popularisé le mot d'engagement au sortir de la guerre. Il a voulu une littérature engagée. Il s'est engagé aussi par ses articles dans les temps modernes. C'est pas tout à fait du journalisme. Enfin, c'est un rythme, si vous voulez, qui n'est pas non plus celui de l'écrivain traditionnel. Alors, c'est quoi l'engagement de Mauriac et pourquoi utilise-lui ce terme? Étienne de Montetti.
L'engagement de Sartre, c'est quand même une idéologie qui prend tout l'homme qui est engagé, le romancier comme le journaliste, comme le philosophe. Il y a une sorte de système, d'esprit de système qui va prendre possession de l'homme. Et donc il y a probablement un peu une ambiguïté à reprendre le même terme pour Mauriac. Ses romans ne sont pas engagés, ses romans disent quelque chose de l'homme, des états d'âme de l'homme, des questions existentielles, pour reprendre un mot sartrien, de l'homme. Mais Mauriac est assez, au fond, assez inattendu dans ses engagements. Il accepte de parler d'abord contre son camp. Souvent, il accepte de parler contre la bourgeoisie démocrate chrétienne. C'est donc un homme qui est, oui, engagé, mais au fond avec un combat assez solitaire qui ne répond pas forcément à des mots d'ordre de la part d'un parti. Il a à un moment donné délaissé le général de Gaulle au moment du RPF, lui préférant plutôt Mendès. C'est quelqu'un qui a toujours voulu et pensé, fût-ce contre sa famille, contre ses amis, contre son camp. Et ça lui donnait certainement du piquant et du charme, effectivement, mais il revendiquait cette liberté.
Oui, je crois qu'en effet, c'est la différence essentielle. Mauriac ne s'adosse pas à une philosophie de l'histoire dans laquelle il pourrait ranger les événements. Il prend les événements de plein fouet. Et en cela, il fait penser à Peggy, auquel il rend plusieurs fois hommage dans le bloc-notes, parce que Peggy, c'est aussi, c'est un homme qui avait une profondeur philosophique extraordinaire, dont on a pris conscience peu à peu d'ailleurs, mais qui n'a jamais choisi la forme du traité, qui n'a pas écrit un système. Pour reprendre une expression de Mounier, l'un de ses disciples, l'événement était son maître intérieur. Et on peut dire la même chose de Mauriac. Il ne rangeait pas les événements dans une case, il les suivait, il réagissait à eux, et peut-être en effet survit-il du fait de cette liberté. C'est-à-dire, il était pour des raisons profondes ancré à droite, et il n'a jamais renié cet ancrage. Il a reproché à la gauche de ne rien comprendre à De Gaulle parce que elle est obsédée par la justice sociale, elle n'avait aucune idée de la grandeur. Mais d'un autre côté, il s'est très vite opposé à la colonisation. Donc, il a un peu aussi trahi sa famille. Et si nous l'aimons aujourd'hui, à quelques familles nous-mêmes que nous appartenions, c'est sans doute du fait de cette grande liberté, Xavier Patier.
Oui, mais Mauriac, effectivement, l'engagement de Mauriac, c'est toujours la réaction presque épidermique à un événement. D'ailleurs, si on regarde le premier engagement de Mauriac, en dehors du Sillon, où il n'a jamais vraiment adhéré, d'ailleurs, à l'Action française, où il n'a lu que les articles, ça a été en 1935, quand il signe le manifeste des intellectuels pour dénoncer l'invasion de l'Éthiopie par Mussolini. Et en fait, ce premier engagement a donné la clé de tous les suites. Il avait près de 50 ans déjà. A donné la clé de tous les autres. C'est-à-dire que Mauriac se définit toujours par rapport, effectivement, à l'événement qui prend de plein fouet. Il n'est jamais dans l'esprit de système. C'est le côté à la fois inattendu de Mauriac et très pragmatique qui fait qu'il s'est quand même épanoui dans la relation avec la personne du général de Gaulle. Parce que le général de Gaulle aussi était dans un... Le gaullisme, c'est d'abord la réaction à l'événement.
Il en parle d'ailleurs de manière explicite. Il dit « Moi aussi, comme Charles de Gaulle, je viens de la droite. Je suis de droite et comme de Gaulle, c'est à droite aussi que je me serais fait le plus d'ennemis. Mais pour d'autres raisons que les siennes, lui n'a obéi qu'à l'intérêt français. Chez moi, c'est la conscience religieuse qui m'a fait prendre le parti qui aurait dû être celui de la gauche. » Donc, il est cet électron libre qui effectivement réagit à l'événement et qui ne s'embarrasse pas des préjugés de sa classe, de ses amis, de son entourage. Il a, pour ça nous ramène à Peggy, il a ce qu'on appelle une âme inhabituée. On connaît le célèbre passage de Peggy sur les catastrophes d'une âme habituée ou d'une pensée habituée. Mauriac, c'est vraiment l'âme inhabituée qui renouvelle chaque jour sa réflexion sur les êtres et sur les événements.
Alors sur De Gaulle, d'ailleurs, il dit ceci, en 68 encore, « Eh bien oui, nous vous l'accordons, le gaullisme, c'est... » La réaction malheur. Voilà. Mais alors, d'un autre côté, on fait souvent ce reproche à Mauriac d'avoir aimé De Gaulle jusqu'à l'idolâtrie. Et on l'a beaucoup ridiculisé à cause de ça. Alors, ce reproche, vous paraît-il, justifié? Est-il allé trop loin dans une quasi-dévotion au général Xavier Patier?
Ça serait vrai s'il n'avait pas dit que le RPF est un péché absolu. Et quand on regarde, en fait, oui, il aimait le général de Gaulle, en disant qu'il ne l'avait d'ailleurs jamais compris. Il a écrit assez tard à Maurice Schumann, « Je n'ai toujours pas compris ce qui était le général de Gaulle ». Il a écrit ça à Maurice Schumann après avoir publié son essai de Gaulle. Mais là où on voit surtout que c'était un gaulliste de raison, c'est qu'il n'a pas adhéré au gaullisme en 58, il a adhéré à la Ve République. La meilleure preuve, c'est qu'il n'a pas été de ceux qui ont dit « Pompidou trahit le général de Gaulle ».
Oui, c'est vrai.
Il a été pompidolien parce qu'il était pour la Ve République. Il a été gaulliste parce que le général de Gaulle avait instauré la Ve République. Donc, ce n'est pas du tout une espèce de passion aveugle ou idolâtre. Effectivement, c'est plutôt la droite, d'ailleurs, qui a voulu l'enfermer là-dedans. Il était beaucoup plus lucide que ça. Mais c'est vrai qu'à partir de 58, on cherche en vain une critique d'un acte du général de Gaulle par Mauriac. Il n'y en a plus. Et voilà, bon, y compris le peuple sûr de soi et dominateur.
Mauriac, il dit rien, il dit presque rien.
Enfin, il justifie, il dit mais De Gaulle a raison, vous n'avez rien compris.
Étienne de Montetti.
De fait, mystérieusement, la politique installée par le général de Gaulle épouse assez bien les méandres de la pensée de Mauriac. Et par exemple sur la colonisation, où le général de Gaulle a pu rêver en 58 avec des ambiguïtés par rapport à l'Algérie. Et finalement,
ce qui va se passer, ça va être, au fond, ce chemin étroit qui est celui que Mauriac cherche depuis France-Maghreb, d'essayer de se sortir de cette situation le mieux possible, par le haut et en respectant les peuples du Maghreb. Au fond, peut-être parce que De Gaulle pratique une politique à la Mauriac, que Mauriac ne trouve rien à redire au général De Gaulle.
Les deux hommes avaient quand même un point commun, c'est que c'était... Ils avaient une contradiction avec laquelle ils ont vécu toute leur vie, c'est l'héritage Sillon, doctrine sociale de l'Église, et l'héritage Maurice Barrès. Ils ont été tous les deux des lecteurs passionnés de Charles Maurras, jusqu'au milieu des années 30, en gros jusqu'à la condamnation de l'Action française par le pape. Et ils ont été tous les deux habités par ce que disait Mauriac, c'est-à-dire Sillon nous a donné pour toute la vie une mauvaise conscience. Et en fait, ça en fait deux personnages très complexes, qui n'étaient pas dans un système, mais qui étaient dans une contradiction permanente. Et ils se sont retrouvés là-dessus, c'est-à-dire qu'ils se sont aidés mutuellement à réconcilier Maurras et Barrès,
mais ne pas oublier, j'y reviens, Péguy. En tout cas, pour De Gaulle, c'est sûr, et pour Mauriac, c'est assez vrai. Dans une page de son journal, il parle d'une lecture qu'il vient de faire, et c'est Jules Isaac, qui publie « Expérience de ma vie » en 1959, où il raconte son amitié avec Péguy, l'auteur de « Jésus et Israël », un livre qui a beaucoup compté pour Mauriac. Et il y a un moment très beau, parce que il relève aussi ce passage où ils étaient, Péguy et Jules Isaac, à la sortie du Luxembourg, à l'angle de la rue de Vaugirard et de la rue Rotrou, et c'était en 1897, Jules Isaac avait 20 ans, et il dit à Péguy, son aîné, « Tu peux compter sur moi ». Et il a pu compter sur lui jusqu'au bout, et c'est vrai, il y avait un côté chef de bande aussi chez Péguy, du fait de son charisme. Mais un peu plus loin, il dit « Jules Isaac m'a fait rourir Péguy, éblouissement, je ne le quitte plus, cette prose s'impose à moi souverainement, gonflée de signification, c'est cela qui est unique, chaque mot est lourd, chaque phrase pèse d'un poids de vérité non pas notionnel mais charnel, et d'une vérité prophétique qui nous concerne nous, un demi-siècle après, que cela a été écrit. » Donc voilà, c'est le même paradoxe, ça nous concerne un demi-siècle après que cela a été écrit, alors que c'était une pensée enracinée dans l'actualité immédiate, et je ne suis pas sûr, en tant que lecteur de notre jeunesse notamment, que Péguy aurait apprécié la phrase « peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur ». Sûr de lui-même et dominateur, c'était pas la présentation que Péguy faisait justement des Juifs. Mais là, on retrouve le paradoxe dont je parlais tout à l'heure, et je citerai Gide. Gide dit « J'appelle journalisme en littérature ce qui intéressera demain moins qu'aujourd'hui ». Ben oui. Donc ils font du journalisme l'un et l'autre, et ça intéresse encore plus aujourd'hui qu'hier. Oui. Voilà. Et ce paradoxe donc vaut pour l'un et l'autre. Mais Xavier Patier, dans votre propre ouvrage « Demain la France, tombeau de Mauriac, Michelet et de Gaulle », vous dites que Mauriac incarnait pour vous la foi. Vous parlez de ces trois vertus théologales incarnées par ces trois personnages et qui, dites-vous, ont disparu avec eux. Alors, restons-en à la foi. Qu'est-ce que c'est la foi de Mauriac, Xavier Patier?
Déjà, il était difficile de dire que Mauriac, c'était la charité. Parce qu'il avait trop de talent pour être charitable, toujours. Si on cherche une cohérence, parce que en écoutant ce qu'on lit ou ce qu'on vient de dire sur Mauriac, on a l'impression d'une espèce de zigzag permanent, très pragmatique, en réaction à des événements imprévisibles. Il y a une cohérence. Et la cohérence de Mauriac, c'est qu'il arrive à la conclusion que croire, c'est croire contre la volonté de démissionner. Il dit d'ailleurs, la foi, pour moi, c'est un refus du refus. C'est le refus de refuser de se laisser aimer par Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que toute l'œuvre de Mauriac, qu'on aurait pu appeler François Mauriac, ça aurait été un roman très au-dessus de Thérèse d'Esquerou, toute l'œuvre de Mauriac, c'est précisément le passage d'un jansénisme très étroit de l'enfant chargé de chaîne jusqu'à la certitude d'être aimé de Dieu qui s'exprime dans les nouveaux mémoires intérieurs. Et il y a une vraie cohérence parce que toutes les révoltes de Mauriac, toutes ces réactions, que ce soit l'invasion de l'Éthiopie, que ce soit la guerre d'Espagne, que ce soit les événements de Maroc, d'Algérie, mai 68, il l'explique par la foi en Dieu. Il n'a aucune autre clé qui tourne dans la serrure. Il dit d'ailleurs, aucune clé ne tourne dans la serrure quand on veut comprendre sauf le Christ. C'est exactement ce qu'il dit lui-même.
Que représente pour vous la foi de Maria Chrétienne de Montetti?
C'est son fil conducteur et c'est un combat permanent. Ce n'est pas une foi sereine ou triomphante. Ce n'est pas une foi sûre d'elle et dominatrice. C'est quelqu'un qui est hanté par sa nature, par ses combats privés. En 48, il écrit ceci: « Je finis ma vie dans la polémique et fais figure d'homme redoutable. Peut-être y a-t-il là une défense contre la vieillesse, une tentative de s'insérer dans la vie, de ne pas rester sur la rive, comme ces peu chrétiens. Quel signe inquiétant que ce goût d'une existence tumultueuse et que cela correspond peu à mon cœur le plus profond. » C'est donc un homme qui, entre la solitude de Malaga et les honneurs parisiens, entre effectivement une vie chrétienne qui nécessiterait la charité et le goût de la polémique, le goût des piques, souffre en permanence. Ce qui est aussi très intéressant, et surtout aujourd'hui, c'est que ces romans de Mauriac dont on parlait au début en disant que peut-être qu'on ne les lisait plus, ils sont entièrement portés par une préoccupation religieuse, non pas que ce soit une littérature de bons sentiments, mais qui cherche à sonder les âmes et à sonder ce qu'il y a de métaphysique dans chacun des personnages. Il le dit à de très nombreuses reprises, dans le roman ne l'intéresse que ça, c'est pas la description d'une époque ou d'un milieu, ça c'est un petit peu le décor. En revanche, sonder, comme il dit, creuser dans la boue pour aller y chercher l'eau vive, hein, c'est une phrase qu'il utilise, c'est véritablement une préoccupation religieuse qui l'inspire pour toute son œuvre romanesque.
Oui, mais il m'arrive d'être questionné sur mon propre rapport à la religion et je réponds que je suis athée, mais que je suis un athée sans triomphalisme, j'ai pas l'impression d'avoir vaincu la superstition ou l'obscurantisme. Je ne crois pas en Dieu parce que je crois en la mort. Voilà. Et l'athée que je suis se retrouve aussi dans Mauriac. Vous dites la foi, bien sûr, mais des considérations sur la mort de Mauriac dans le bloc-notes, parce qu'il y a cette liberté. Il est Mauriac, donc je dirais pas qu'il parle de ce qui lui passe par la tête, mais des considérations métaphysiques voisines avec les réflexions politiques. Et c'est aussi présent dans les mémoires intérieures. Alors, je vais lire deux extraits. Ce n'est pas la séparation d'avec le monde qu'il nous faudra consommer leur venue, mais la séparation d'avec la vie en soi, telle qu'elle est, la séparation d'avec le jour, d'avec la nuit, d'avec le froid et d'avec le chaud, d'avec la chose tenue dans notre main, serrée ou étreinte dans nos bras. Mais cela ne serait rien. Ce à quoi il faut dire adieu, c'est à ce battement sourd au-dedans de nous et à ce sourd ruissellement, horreur impensable, dont la seule approche nous séparera des vivants. Pensez sur cette chair méconnaissable, déjà en pleine mue, et qui s'éloignera d'eux vertigineusement. Il n'y a plus rien en commun entre celui qui agonise et ceux qui le regardent s'enfoncer, sans rien plus pouvoir faire que tomber à genoux. Ça, c'est le bloc-notes. Et dans les nouveaux mémoires intérieures, une foi même très vive, une espérance qui ne fléchit jamais, ne nous rende pas plus aisée la contemplation de la mort. Car arrêter sa pensée sur la séparation qui nous attend, sur cet arrachement à tout ce qui nous tient, chose et être, revient moins à méditer sur la mort que sur ce qu'elle entraîne. La mort n'est pas arrachement, mais engloutissement, et par-delà le néant ne nous paraît pas plus pensable que l'être. Nous nous cabrons, nous nous raidissons à la porte de l'abattoir, incapables d'imaginer ce qui est, capables seulement d'horreur et de terreur devant cette ténèbre. Donc c'est une foi, je n'irai pas travailler par le doute, mais travailler par l'angoisse.
Ah certainement, c'est très beau d'ailleurs. Il cite au moins une dizaine de fois la Rochefoucauld. Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder en face. Oui. Il était obsédé par l'idée qu'il voulait absolument regarder le soleil en face et que ça lui était insupportable, comme à chacun d'entre nous, et que la foi n'y changeait finalement rien. La différence, peut-être, entre l'athéisme inconsolable d'Alain Finkielkraut et la foi angoissée de Mauriac, c'est que Mauriac désirait et recevait la consolation. Pas en permanence, mais il se rendait bien compte que l'inexistence de Dieu le rendait inconsolable. C'était pas du tout. Et donc, ça l'a pas amené à une foi triomphaliste, de la même manière qu'il y a un athéisme triomphant. Je pense d'ailleurs effectivement qu'un athéisme qui n'est pas triomphant a beaucoup à dire à une foi qui n'est pas triomphante. Et l'angoisse de Mauriac, c'est effectivement une foi qui finalement accepte l'hypothèse de la consolation. Non seulement il l'accepte, mais il la désire. Et à la fin d'ailleurs, parce que après tous ces textes-là, un des tout derniers qu'il a dicté en août 70, juste avant de mourir, lui-même, il dit « Peut-être que lorsque nous mourrons, nous allons avoir la surprise de découvrir les choses telles que les dames du catéchisme nous l'ont enseigné, et que ce sera un clin d'œil d'amour du Dieu de nous accueillir dans une réalité qui était décrite par nos grands-mères. » Donc il avait ça aussi en tête.
Oui.
Cette inquiétude, c'est celle du chrétien. Il suffit de lire les dialogues des carmélites, où Bernanos fait dire à ses carmélites des phrases terribles. La mère supérieure qui dit « J'ai prié tous les jours de ma vie », elle est à l'article de la mort, « J'ai prié tous les jours de ma vie et cela ne me sert de rien ». Autrement dit, il y a quelque chose qui relève de la grâce face à la mort, d'en être consolé ou pas. Chez Moria, qui a ces temps d'inquiétude, c'est vrai, mais il y a aussi des pages admirables, et pour un chrétien qui vraiment peuvent être bouleversantes, c'est quand il exprime ce que représente pour lui assister à la messe ou communier au corps du Christ, et où là, véritablement, il exprime avec son talent d'écrivain quelque chose qui est de l'ordre de l'apaisement et de la confiance retrouvée, également pour la confession. Et là, véritablement, on sent le chrétien, d'une certaine manière, qui reprend le dessus sur son être inquiet.
Alors, vous dites, Xavier Patier, dans votre livre, que Mauriac incarnait la foi. Ouais, nous avons vu ensemble que c'était une foi non dénuée d'inquiétude, mais qu'avec lui, cette vertu théologale s'est momentanément ou pour toujours éclipsée. Et vous dites que si la foi a disparu, c'est au profit de l'identité. L'identité, et c'est une régression qui vous paraît terrible. Vous avez des mots extrêmement durs, et je voudrais savoir ce qui vous inspire ce verdict et cette dureté, Xavier Patier.
Alors sans doute est-ce que je suis excessivement systématique. Mais je pars d'un constat. C'est qu'il y a une collection phare dans l'édition française du temps de Mauriac qui s'appelait « Ce que je crois ». Et que peu après la mort de Mauriac, cette collection a disparu. Alors il y a eu encore, je crois, il y a eu Maurice Clavel, et puis ça a été les tout derniers. Et en fait, la question fondamentale qu'on posait à tout écrivain qui avait un peu de notoriété, c'était « Que croyez-vous ? Rendez compte de la foi qui est en vous », comme disait Saint Paul. C'était la question qu'on posait à tout le monde. Elle a disparu. Et au profit de la question qui était née en 68... qui s'appelait « D'où parles-tu ? » D'où parles-tu, ça interroge l'identité. Et ça tue la liberté. Et d'ailleurs, c'est amusant, parce que le dernier « Ce que je crois », qui est celui de Maurice Clavel, ou un des tout derniers, il dit « Nous nous sommes trompés à la question « D'où parles-tu ?» Il fallait répondre « Merde !» dit Clavel. Ça n'est pas ça, la question. Et effectivement, à partir du moment où on n'est plus sommé de s'expliquer sur ce qu'on croit, mais sur ses racines, on rentre dans l'identitaire. Alors après, on s'étonne que la France soit une espèce de juxtaposition d'identité en conflit. Et y compris les valeurs de la République, dont on a fait une espèce de sourate, est devenue un élément identitaire parmi les autres. La manière d'en sortir, ce sera d'arriver à revenir à une notion, ne nous demandez plus d'où nous parlons, mais ce que nous croyons. Autrement dit, l'identité française du temps de Mauriac, c'était de ne pas avoir d'identité, c'était d'avoir une foi.
Vous êtes d'accord avec ce diagnostic?
Il me semble effectivement que la foi chrétienne ne peut pas être une identité, ne peut pas être un programme, ça ne peut pas être... je pense qu'un chrétien aspire plutôt à être un saint, enfin, c'est peut-être des considérations religieuses là que je tiens là, plutôt qu'un chrétien, comme si le chrétien était justement ce que Mauriac n'a pas été, c'est-à-dire quelqu'un dont on sait ce qu'il va répondre selon un certain nombre de problèmes qui se posent à notre époque. En revanche, la sainteté, c'est plutôt un programme de vie. Et si le christianisme devient vraiment une identité, il pervertit quelque chose qui est quand même le message originel du Christ.
Oui, mais je crois personnellement que l'émergence de la question de l'identité n'a rien à voir avec le « d'où parles-tu », le « d'où parlez-vous » de 68. Elle a plutôt à voir avec ce qu'a écrit Peggy au moment même où il a senti, perçu, le prix d'une patrie charnelle. Nous sommes les héritiers et les administrateurs, comptables et responsables, d'un domaine incessamment menacé. C'est cela. Le mot d'identité, je l'ai personnellement découvert dans un article de Kundera que je cite très souvent, un Occident kidnappé, la tragédie de l'Europe centrale, identité européenne, identité nationale, deux termes qu'il emploie, et en forgeant en même temps le concept de petite nation, non pas au sens géographique mais au sens existentiel, une nation dont l'existence est menacée et qui le sait. Premier vers de l'hymne polonais, la Pologne n'a pas encore péri. Donc l'identité, ça a beaucoup plus à voir avec le patriotisme de compassion de Simone Veil, qui n'oubliait pas la foi, me semble-t-il, dans l'enracinement, c'est-à-dire tendresse pour une chose fragile, précieuse et périssable. L'identité française est devenue précieuse parce qu'elle est apparue précaire, vidée de l'intérieur d'un côté et de l'autre part, contestée de l'extérieur, avec la montée en puissance de la francophobie, même en France. Donc c'est tout cela, si vous voulez, qui a mis sur le devant de la scène la question de l'identité. Donc je ne vois pas là une régression par rapport à la foi, qui d'ailleurs ne se commande pas. Je vois effectivement d'autres, une autre configuration historique, des événements auxquels il faut bien essayer de faire face, Xavier Patier.
Oui, alors l'identité est malheureuse en l'espèce.
Oui, si vous voulez.
On a quand même quelque chose à voir avec le « D'où parles-tu » qui a commencé à naître dans les années 60, selon moi. Parce que entre Peggy et aujourd'hui, il y a quand même eu pas mal d'événements. Peggy, comme disait Mauriac, la mort ne nous l'a pas pris, elle nous l'a préservé en 1914, tel qu'il était et tel qu'il n'est pas devenu. Mais depuis Peggy, il y a quand même eu la terre qui ne ment pas. Il y a eu quand même une espèce de perversion de l'identité dans le discours politique français que Peggy ignorait. Ça, c'est une première chose. Et puis, il y en a une autre, c'est qu'effectivement, la foi n'a jamais eu pour ambition de se substituer à l'identité. Il s'agit de la dépasser. C'est-à-dire, à partir du moment où il n'y a rien de plus, rien d'autre que la terre qu'on a sous les pieds et qui ne ment pas, et que le clocher au milieu du village, on est condamné, finalement, à un provincialisme. Et la France, justement, si elle a une identité quelque part, c'est qu'elle n'est pas provinciale.
Mais ce n'est pas la terre, simplement. Ce sont les œuvres, c'est la langue. La langue dont on se rend compte qu'elle est mortelle, qui peut-être ne survivra pas à tous les assauts dont elle est l'objet. Et les anglicismes ne sont qu'une des formes des attaques contre la langue, l'effondrement syntaxique, le rétrécissement du le rabougrissement du vocabulaire, tout cela quand même. Donc on se rend compte que la langue constitue une identité quand on voit qu'elle peut partir. C'est la mortalité qui fait l'identité. Donc c'est pas simplement la terre, d'ailleurs, qu'il ne faut pas nécessairement mépriser non plus.
Non, mais il s'agit bien de mener ce combat-là, défendre la langue, défendre ce que nous sommes. Mais au nom de quoi? Voilà, au nom de quelque chose de plus important. Voilà, c'était tout simplement ce que je voyais dans la foi de Mauriac par rapport à l'époque identitaire que nous vivons. Parce que ce sont des identités au pluriel maintenant.
Alors je parlais de Kundera et je ne résistais pas à la tentation de vous citer un passage que vous avez peut-être oublié du bloc-notes. 68, évidemment, Mauriac n'est pas particulièrement favorable. On sait qu'il a participé à la grande manifestation pour De Gaulle le 30 mai, c'est ça. Et il cite un article de Gabriel Matzneff.
Horesco référence.
Voilà. Comme ça, nous sommes tranquilles. Le CSA, peut-être, ne va pas nous tomber dessus. Mais c'est étonnant parce que Matzneff s'adresse aux étudiants. Et il le dit, il est inquiétant que certains salopards aient fait applaudir à l'Odéon la déportation de Signevski et Daniel. Il est inquiétant que la référence favorite de nos révolutionnaires ne soit pas l'expérience, l'actuelle expérience tchécoslovaque, mais l'expérience chinoise. Et c'était vrai. Nous avons complètement, en 68, raté le printemps de Prague. Alors certes, la plaisanterie est parue en août 68, et tout le monde s'est jeté dessus, ça, il faut dire. Mais on était maoïstes, c'est la Chine. C'était alors qu'il se passait quelque chose à Prague d'une immense importance. Et c'était d'ailleurs une révolte politique aussi bien que culturelle. Et ça, en 68, nous l'avons raté. Et Mauriac nous le rappelle en citant Matzneff.
Bon. Et Xavier Patier cite un texte qui, je crois, est inédit de l'attitude de Mauriac vis-à-vis de 68, où effectivement, il parle avec une sorte de bienveillance à cette jeunesse. Mais il lui adresse quand même d'immenses reproches, notamment celui de casser, de détruire, sans précisément savoir par quoi ce sera remplacé. Je ne me souviens plus de ces termes.
Il dit en gros l'alternative.
Vous avez pâti.
Ce par quoi le système ONI devait être remplacé dans l'imaginaire étudiant, ça ne pouvait être rien d'autre que par le marxisme, dit Mauriac. Or, on a sous les yeux des tas d'exemples qui montrent ce que c'est qu'en réalité, dans la vraie vie, le marxisme. Il dit, or, la réponse à la question que posait mai 68, nous l'avons déjà, nous, chrétiens. Et en fait, il dit, dans ce texte inédit de début 70 ou de fin 69, tout ce qu'a été la conversion de Clavel quelques années plus tard, en disant finalement, d'une certaine manière, 68 était un appel au retour d'une espèce d'esprit saint refoulé. Et donc, de ce point de vue-là, Mauriac avait compris le mouvement de mai 68 et avait compris aussi l'extraordinaire contresens qui avait été fait en croyant que la réponse à mai 68 se trouvait en Chine. Parce que si elle trouve en Chine, elle se trouve aussi au goulag.
Et puis, il y a peut-être autre chose qu'il a compris avant 68, et je résiste pas non plus au plaisir de vous le dire. Simone de Beauvoir, il lisait Simone de Beauvoir avec beaucoup d'attention. Il y a d'ailleurs un très bel éloge des mémoires d'une jeune fille rangée. C'est étonnant ça, mais là, c'est autre chose. Le tombeau de Chateaubriand nous semble assez ridiculement pompeux, à Sartre et à moi, dans sa fausse simplicité, que pour marquer son mépris, Sartre pissa dessus. Commentaire de Mauriac, cette mixtion sartrienne est aussi importante pour moi dans l'histoire littéraire que pour Goethe, le canon de Valmy. Vous savez, Goethe qui dit « De ce lieu et de ce jour commence une nouvelle époque de l'histoire du monde et vous pourrez dire que vous y étiez ». C'est une ère nouvelle qui commence, celle du crachat ou du pipi sur les tombes illustres, et nous bercions dans leur tombeau ces morts bien-aimés. Là, on voit aussi. Il a senti quelque chose, là, il a vu un événement qui faisait époque. Mais alors, Xavier Patier, vous abordez deux autres vertus théologales, incarnées par Michelet, et par De Gaulle l'espérance, Michelet la charité, et il est vrai que Mauriac n'était pas particulièrement charitable, mais il n'était pas non plus avec lui-même, et vous dites qu'elles sont aussi en train de disparaître. Alors qu'entendez-vous par là, Xavier Patier ?
Je dis plutôt qu'elles sont refoulées, parce que disparaître, je ne pense pas. Jusqu'à la fin de l'ère mauriacienne ou gaulliste, on peut l'appeler comme on veut. Et d'ailleurs, le bloc-notes, on pourrait le lire de cette manière-là, la politique et l'analyse de la politique et le débat politique étaient assez largement fondés sur les vertus d'espérance, de foi et de générosité, de charité. Et on s'est, au cours des années 70, à cause de la crise pétrolière, du pragmatisme pompidolien, à cause de toute une série de phénomènes, on est venu à poser la politique en termes de vertus cardinales, la justice, l'efficacité, la tempérance, la mesure, la force. Et on est arrivé à un système qui manifestement crève de faim de ses vertus théologales parce qu'on s'aperçoit que c'est le vrai sujet malgré tout. Et notamment la vertu de charité, c'est-à-dire qu'une politique française qui n'est pas fondée sur la générosité était totalement inconcevable jusqu'aux années Mitterrand. C'est-à-dire que la France était un pays qui avait une identité dans la générosité, qu'elle n'a plus, par exemple.
Alors, vous êtes d'accord avec ce diagnostic?
Oui, en effet, ça correspond aussi au fait que les hommes politiques sont, pour beaucoup de raisons assez longues à expliquer, prisonniers du quotidien, prisonniers du commentaire, prisonniers d'une actualité qui les enferme. Et l'espérance, c'est évidemment prendre du recul. Et notamment, le président de la République, le général de Gaulle, avait conçu des institutions, le chef de l'État, prenait de la hauteur, prenait du temps et pouvait incarner quelque chose de supérieur à la conduite de la nation. J'ajoute que le mot charité a quasiment disparu du vocabulaire contemporain au profit de celui de solidarité, et c'est pas du tout la même chose.
Pas du tout la même chose, dites-vous. Mais alors, à moi quand même de faire des objections. La première sur l'espérance. Eh bien oui, mais un autre principe a surgi, très bien illustré par Hans Jonas. Le principe responsabilité. Et on pense à cette phrase de Camus recevant le Nobel, une phrase tellement connue qu'on hésite à la citer, mais quand même, les autres générations se croyaient vouées à refaire le monde. La tâche de la nôtre, c'est peut-être d'empêcher que le monde ne se défasse. Donc voilà, c'est sauver le monde, c'est peut-être en effet ce qui importe particulièrement aujourd'hui. Et dans sauver le monde, il faut aussi entendre sauver la beauté du monde. Deuxième chose sur la charité. Moi, je pense immédiatement à la phrase de Chesterton. Le monde est plein de vertus chrétiennes devenues folles. Et on ne parle pas de charité, on parle d'humanité, on parle de solidarité, si vous voulez, mais enfin, le pape François, c'est un peu des vertus chrétiennes devenues folles. Il prône une généreuse ouverture qui, au lieu de craindre la destruction de l'identité locale, soit capable de créer de nouvelles synthèses culturelles, et on voit ce que cela donne, c'est-à-dire une fracture à l'intérieur de toutes les sociétés européennes, une violence accrue, et une difficulté à la prendre en compte, au nom précisément d'une charité, même si on emploie le mot, qu'on refuse de problématiser, comme si la morale c'était l'amour, et non, comme le dit Lévinas, la sagesse de l'amour, Xavier Patier.
Oui, pardonnez-moi, je suis moins systématique. D'abord, on a un pape, et ça c'est totalement inédit, qui n'est pas européen, et qui, d'une certaine manière, ne comprend pas bien l'Europe.
Oui.
Qui n'est pas francophone, qui n'est pas francophile, qui n'est pas venu en France, qui n'y viendra probablement jamais. Alors, soit on sombre dans une espèce de lamento gallican en disant « ce pape joue avec le feu, il tient des propos qui sont totalement irresponsables », soit on s'est dit « il y a une opportunité dans ce pape qui nous contrarie tant ». Et effectivement, la conscience chrétienne doit quand même se poser des questions en termes de charité sur les sujets géopolitiques. Ça ne veut absolument pas dire que la politique doit se désintéresser des équilibres démographiques, d'immigration, ça n'a rien à voir. Mais néanmoins, cette petite voix pontificale et angélique, pour moi, est assez opportune, parce que sinon, on rentre dans un système qui va s'amener par des violences très fortes. Mais là où vous avez effectivement raison, c'est qu'il faut qu'on s'habitue à avoir un discours romain qui n'est plus un discours européen, et pour le meilleur et pour le pire.
Pour le meilleur et pour le pire. Vous voyez du meilleur, Étienne de Montetti ?
Non, mais j'ai l'espérance du meilleur.
Bon, alors vous avez l'espérance du meilleur, mais je peux citer le cas très récent de ce jeune Pakistanais qui s'est passé pour un mineur isolé, qui n'était pas mineur, qui a attaqué au hachoir deux personnes devant les locaux de Charlie Hebdo, et par charité, le juge a refusé de lui faire faire les tests qui auraient permis de vérifier son âge. Et on voit très bien pourquoi il l'a fait. Ça partait d'un bon sentiment, mais d'un bon sentiment aux effets absolument destructeurs. Donc c'est pour ça que on ne fait pas non plus la bonne morale avec les bons sentiments.
Ni de bonne politique, ni de bonne littérature. Mais la charité est le contraire des bons sentiments. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'il faut se méprendre. La charité est exigeante. Lorsque saint Augustin dit qu'il faut avoir la vérité de la charité, c'est-à-dire être capable de dire non ou zut à quelqu'un qui doit entendre le mot non ou zut. Le problème, c'est que on a tendance à croire que la charité est une complaisance politique. La complaisance, c'est à l'opposé de la charité, c'est une forme d'indifférence. Après moi, le déluge. Après tout, le mineur non accompagné, je vois vraiment pourquoi je me culpabiliserai à traiter le sujet. Est-ce que c'est de la charité ? C'est un péché grave contre la charité qu'on doit à l'égard de sa société. Donc, je pense qu'il y a un problème sémantique. C'est que la charité telle que j'en parle n'a rien à voir avec la complaisance ou avec le bon sentiment qui nous envahit.
Très bien. Alors, maintenant, je me tourne vers vous pour finir, Étienne de Montetti. Vous dirigez les Figaro littéraires. Y a-t-il, pour les journalistes d'aujourd'hui, des leçons à tirer de l'expérience journalistique de Mauriac? J'ai dit Mauriac parmi nous. Est-il présent parmi vous, au Figaro ou ailleurs, en tant que journaliste, Étienne de Montetti?
Comme un grand ancien, un grand aîné, évidemment très intimidant. Probablement parce que l'époque a changé, même les conditions dans lesquelles Mauriac travaillait n'existent plus. Cette espèce de réclusion, soit à Paris, à Auteuil, soit à Malaga, qui lui permettait cette hauteur de vue. Le journalisme aujourd'hui est pris par la rapidité, il est pris par la brièveté. Alors ce qu'on essaie de sauver, c'est peut-être le style quand même, le jugement autant qu'il est possible. Mais vous avez raison, quand on lit le bloc-notes, il ne peut pas ne pas avoir une forme de nostalgie par rapport à ce que l'époque a permis à Mauriac de faire, c'est-à-dire d'écrire en lui laissant et le temps de la réflexion et l'altitude du jugement.
Oui, mais quand même, il y a des éditorialistes.
Oui.
Et l'éditorialiste a le temps. Il y a même des journalistes, voire des écrivains journalistes, qui tiennent aujourd'hui des chroniques hebdomadaires, quinzomadaires ou mensuelles. Donc tout cela, est-ce que ça peut s'inscrire dans le sillage de Mauriac ou même là, l'époque a-t-elle tellement changé que l'éditorial aujourd'hui ou la chronique est d'un autre ordre ? Vous aviez de Montetti.
Étienne,
pardon.
Dans un quotidien, la rapidité est quand même présente. Mais il est vrai qu'il y a un ensemble d'aventures de presse qui essayent de retrouver ce temps long, ce qui est très heureux, et j'espère qu'on y verra des écrivains s'installer justement dans cette longueur, dans cette sagesse. Rien n'est définitif, évidemment.
Rien n'est perdu,
bien sûr, même si on voit des journées qui sont dictées par Twitter, par des réactions, par des invectives, par des polémiques quotidiennes. Mauriac peut être une espérance, justement, c'est-à-dire l'idée qu'il faut tendre vers cette retraite passionnée qui était la sienne et cette envie de plonger dans la fournaise, mais en ayant les armes de la sagesse et de la sagacité même.
Oh bah très bien, c'est une magnifique conclusion. Merci Étienne de Montetti. Alors je rappelle le titre de votre livre, Xavier Patier, « Demain la France, tombeau de Mauriac, Michelet, de Gaulle ». Il est publié aux éditions du Cerf. Quant au bloc-notes de François Mauriac, il vient de paraître, je l'ai dit, dans la collection Bouquins, chez Robert Laffont. Et j'ajoute que, Étienne de Montetti, vous avez publié chez Stock un roman, La Grande Épreuve, qui porte sur une autre forme d'engagement, Dieu sait, la bascule dans l'islamisme, et qui est un roman important, captivant et passionnant. Alors, vous trouverez les références bibliographiques sur le site franceculture.fr. La semaine prochaine, l'émission rapportée L'art, la culture et le temps qui passe. Mes invités seront Laure Adler et Cécile Guilbert. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Aurélie Marsay et de François Connac. À la technique aujourd'hui, Philippe Mercher. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.